Est-ce que vous connaissez des faiblesses?
Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, cet entretien, je veux dire, là je le sens bien, là, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non?
Libre Radio, les vrais grands entretiens.
On est toujours en live et en public pour ces 75 ans de Las Loca. Vous êtes toujours sur Libre Radio et tout de suite on reçoit Guillaume Pidancet qui vient, capitaine etc, on en parlera plus tard, mais qui vient surtout nous présenter son projet, le projet 17, attention à écrire XVII, ce sera important plus tard quand on vous délivrera toutes les informations pratiques et utiles pour en apprendre un petit peu plus sur le projet 17. Bonjour Guillaume Pidancet.
Bonjour.
Comment est-ce que ça va?
Mais ça va bien, merci.
Est-ce que tu es content d'être là aux 75 ans de Las Loca?
Écoute, très content, il fait grand beau, c'est assez agréable de faire de la radio en plein air.
Ça se passe bien. Donc en public aussi, on vous attend nombreux. Déjà pour pouvoir donner un petit coup de main à Las Loca, pour voir un peu ce qui se passe aujourd'hui pour les 75 ans, écouter toutes les bonnes choses qui se passent ici, mais aussi pour nous regarder nous, parce qu'on a des invités cool.
Et qu'on est
extrêmement beau. Voilà. Merci Guillaume. Projet 17, on va commencer directement dans le sujet. Qu'est-ce que c'est et comment c'est né?
Alors, Projet 17, c'est né d'une envie de collaboration avec un ami, Michael Borcard, qui est saxophoniste et polyinstrumentiste. Et on s'est rencontrés il y a pas mal de temps. On avait l'envie de travailler ensemble. On a fait différentes petites collaborations. Puis là, c'était vraiment une envie de... Enfin, lui avait envie d'un côté de monter son projet en solo. Moi, j'avais envie de faire autre chose que de la chanson, enfin de sortir un petit peu des sentiers battus et de la zone de confort. Et on est arrivé à cette envie de bosser ensemble. Donc, on a fait une résidence pour créer vraiment une performance qui traite autour de la poésie électro. Comment faire de la poésie électro? Comment? Donc voilà, on a choisi des poèmes de Baudelaire. C'est une sélection assez choisie. On aurait pu en faire plein d'autres, mais voilà, ceux-ci. Et le but était vraiment de réussir à composer un morceau tout en étant ni dans le slam, ni dans le chanté, mais vraiment dans entre la lecture et le déclamé.
Pourquoi vous avez choisi cette forme-là de déclamation? Pourquoi pas le slam? Pourquoi pas juste la parole?
Alors parce que, à mon sens, le slam ou le rap, que j'adore, l'intérêt se trouve aussi dans l'écriture de l'auteur, de celui qui rappe ou de celui qui slam. Là, le but était plus d'une mise en valeur en fait, et une mise en relief de l'aspect contemporain des poèmes de Baudelaire. Le choix de Baudelaire s'est porté vraiment sur, en l'occurrence, c'était cette année les 150 ans de la mort de Baudelaire. Et par hasard, on s'est dit tiens, c'est une bonne excuse, c'est une bonne raison. Et c'est vrai que pour moi, ça a été Baudelaire qui m'a amené à la poésie, amené à redécouvrir et à apprécier la poésie, à me dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec des mots. Donc ayant l'impression que la majorité des gens ne connaissent que l'Albatros, voilà, souvent pour s'amuser, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc voilà, c'était un petit peu le but.
Et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu peux nous faire un espèce de tour d'horizon des pièces, que, pas toutes évidemment, il faut se garder des surprises, mais des pièces que vous avez sélectionnées, et éventuellement peut-être pourquoi vous les avez sélectionnées, s'il y a une petite toute histoire marrante derrière chacun d'entre eux?
Alors... ça a été, en fait, ça a été l'occasion pour moi de me replonger énormément. Enfin, je me suis relu l'intégralité de Baudelaire en quelques jours, quelques semaines, pour déjà me remettre vraiment dedans, de rebouquiner. Je l'avais forcément eu comme un peu comme livre de chevet au collège, mais ensuite de quoi, je piochais un peu dedans de temps en temps. Je l'avais chanté aussi avec Capitaine, etc. J'avais fait le dernier poème, Le Voyage des Fleurs du Mal. Mais voilà, enfin là c'était donc l'occasion de ça, et c'est de cette lecture j'ai fait déjà une première sélection d'une trentaine de poèmes entre les Fleurs du Mal et les petits poèmes en prose, le Spleen de Paris. Et ensuite de quoi, c'était vraiment un peu pendant la résidence en création musicale, tout d'un coup on cherchait des choses en musique, et là je me disais tiens, cette musique là me raconte ce poème, enfin m'amène à raconter ce poème là. Voilà.
Ton comparse musical Michael Borcard, lui aussi a fait ce travail de sélection des textes, ou ça c'était spécialement ta partie à toi?
Alors c'était plus ma partie. Ouais. Ensuite on a beaucoup travaillé ensemble sur la manière de le dire, la manière, enfin quelle énergie, quelle présence et quelle justesse dans le flow, si on peut dire, dans le texte, dans la manière de le narrer. Comment ça allait avec la musique. Donc on a beaucoup plus travaillé sur l'aspect performatif ensemble. Mais après, lui se fiait à moi sur la sélection des textes, comme moi je me fiais à lui énormément sur, sur le génie musical et la capacité. Il a une capacité de compositeur que je trouve hors norme et qui est, enfin voilà, c'est un excellent musicien, mais surtout un excellent compositeur. Et donc je me fiais aussi beaucoup à ce qu'il allait proposer et comment ça allait ensuite se nourrir l'un l'autre.
C'est de la musique électronique qu'il fait ?
C'est de la musique électronique en live, mais c'est pas de la MAO, c'est avec des instruments, c'est des instruments vrais, mais retravaillés. Donc il a un looper et il va travailler avec un Moog, un synthé, une basse et un saxophone, ainsi qu'une foultitude de pédales d'effet. Et donc oui, alors effectivement, le synthé, ça reste un synthé, c'est un son électronique, mais c'est pas composé sur un clavier derrière un ordinateur. C'est vraiment le but, c'est qu'il y ait quand même un côté organique à cette musique électro.
Qui colle bien avec Baudelaire aussi.
Qui colle très très bien. Et les premiers retours qu'on en a eu sont des retours très agréables. Parce que c'est vrai quand tu crées, que tu composes, au bout d'un moment, t'es dans ton histoire et tu sais pas si ça va vraiment. Est-ce qu'on tient quelque chose de génial ou est-ce que non, en fait, on est en train de faire un truc tout seul, mais personne va accrocher. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance en fait d'être pas les seuls à avoir l'impression que ça touche juste, enfin d'aborder Baudelaire de cette manière-là, d'aborder même de la poésie de cette manière-là, c'est assez neuf. Et voilà.
Et vous avez réussi tous les deux à essayer de recréer un univers autour de Baudelaire. Vous avez réussi à faire cette chose-là. On parlait tout à l'heure de réutiliser cette vieille œuvre-là et puis de la faire connaître mieux. Est-ce que vous la faites connaître aussi différemment ? Est-ce que c'est parce que c'est plus juste Baudelaire, du coup c'est Baudelaire plus autre chose derrière et tout un univers ?
Alors c'est vrai qu'il y a ça. En fait, le but de Projet 17, c'est pour ça que cette performance-là s'appelle Projet 17 Baudelaire. Mais Projet 17 va continuer d'exister par la suite. Le but, ça va être de revisiter différents classiques.
De la poésie toujours.
De la poésie ou de la littérature, voilà, sans spoiler, on a très envie de s'attaquer à Frankenstein, à Mary Shelley. Enfin voilà, c'est une des choses.
Très jeune voix.
En plus, il y a un côté local. Mais donc voilà, non, ça serait pas forcément que de la poésie, mais c'est le but, ça va être vraiment de revisiter des classiques, de les réactualiser et justement d'aller travailler leur côté contemporain plutôt que dans le dépoussiérage. On voulait donc surtout pas tomber dans une esthétique 19e. Donc voilà, on aborde le truc de manière plutôt très, très urbaine, avec une esthétique, que ce soit au niveau des choix de photos, de décors, de logos, mais aussi ce qu'on a utilisé pour les vidéos, parce qu'en fait on fait pas mal de vidéos. Chaque poème est mis en musique, en live, et filmé en live dans des endroits insolites. On a pu faire ça... On a pu faire ça au Bois Fumant, par exemple, on a pu faire ça chez Wood, Barbier, on a pu faire ça à la librairie Lilo 13 ou encore chez Dr Pepper. Enfin voilà, on a pu accéder comme ça à des lieux qui étaient prêts à jouer le jeu pour filmer une performance en live d'un poème dans une esthétique très particulière et qui est une esthétique souvent justement très urbaine. Voilà.
Ce projet spécifique-là, vous l'avez pas encore joué, vous l'avez pas encore fait, ou si vous l'avez, ah si vous l'avez déjà, vous avez déjà eu du retour, donc vous avez
oui,
déjà...
on a fait, pour le moment on a fait deux lives, ouais. qui ont été très beaux, un pour la soirée culte avec le Kino Cabaret et un autre pour la nuit de la flaque sur la place des Volontaires la nuit de la flaque qui était en fait une sorte de contre nuit des Bains. C'était très très bien. Et là,
juste devant l'usine, donc.
Exactement. On était sur le toit de l'immeuble de la Ciguë. C'était idéal comme peu.
Ah, génial. Ça me donne une parfaite transition pour. Tu parlais de l'urbanité tout à l'heure. Tu parlais aussi du fait que vous avez fait des vidéos, tout ça, que le lieu aussi avait une importance pour se produire en live. Ce lieu-là, vous l'avez fait. Un toit, c'est assez magnifique. Qu'est-ce qui vient ensuite? Et aussi, idéalement, de manière tout à fait utopiste comme ça, où est-ce que vous aimeriez, pour toi, quel est l'endroit qui serait le plus significatif ou un des endroits qui serait intéressant pour jouer cette pièce-là particulièrement?
Alors c'est une très bonne question. Je sais pas si je pourrais y répondre comme ça. Ce qui est certain, c'est là où, enfin la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très basé sur l'écoute. Donc un lieu en extérieur, c'est difficile et c'est pas forcément l'idéal, même si c'est très beau au niveau décor. Que ça soit pour le public ou que ce soit pour nous, je pense que c'est plus idéal d'être en intérieur, voire même d'être dans une ambiance tamisée. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça dans des petits théâtres ou dans un salon. Alors chez des gens aussi, tout à fait. Il faudrait réussir à pouvoir éteindre les lumières et installer quand même cette ambiance tamisée, parce que parce qu'il y a, vraiment un côté performance aussi très théâtral et le besoin d'être dans une transmission qui soit... C'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile en fait, alors que j'ai beaucoup chanté dans la rue par exemple, et donc de chanter face aux gens, ben, j'ai appris. Là, c'est quand même une sacrée mise en danger d'interpréter ces textes et de les faire en lumière normale face aux gens. C'est quelque chose aussi qui est très difficile pour vraiment rentrer dans la narration de chaque poème et réussir à séparer les énergies de chaque poème. Donc, après, à l'idéal... Je sais pas. Je pense que l'idéal, en vrai, non, alors j'y pense maintenant, en fait, quelque chose que j'adorerais faire, ça serait de faire ça dans une immense salle avec des matelas et des gens couchés qui puissent limite presque fermer les yeux et se laisser emporter par ce qu'ils entendent plutôt ce qu'ils voient. Soit ça, soit j'aimerais beaucoup faire une silent, organiser ça exactement avec les casques et avoir des gens qui finalement peut-être même ne nous voient pas. Mais peuvent se balader en ville, dans tout un quartier, avec cette poésie qui leur résonne dans les oreilles.
Donc vraiment, le but, c'est pas seulement la musique, tout ça, c'est vraiment un projet multidimensionnel qui vise vraiment à créer une ambiance, et puis une ambiance, a priori, du coup, qui sera pas survoltée, révoltée, mais une ambiance plus enveloppante et plus douce, non, plus réflexive.
Alors réflexive, ouais, en tout cas plus organique, et effectivement plus douce, peut-être plus... plus basé. Alors c'est vrai qu'il faut pas mal comprendre ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau à regarder Michael travailler ses machines, par exemple. Il y a quelque chose de très esthétique aussi, donc la vue fait partie aussi de l'expérience. Mais c'est vrai que dans le côté on n'est pas en train de hurler du bout de l'air, c'est pas le but. Enfin, c'est plutôt de faire en sorte que les mots se hurlent tout seuls, enfin de réussir à la poésie, l'acte poétique se trouve là aussi, dans ce choix-là.
Et ça, c'est quelque chose, c'est ce que t'inspire Baudelaire, justement, quelque chose de plus doux, de plus... Qu'est-ce que t'inspire Baudelaire, en fait? Pourquoi est-ce que vous avez choisi plutôt cet univers-là? Est-ce que Baudelaire, il pourrait pas aller sur, je sais pas moi, la musique de... Bon, j'arrive pas à trouver de la musique, un bon exemple.
La country.
Exactement. Est-ce que vous pourriez pas mettre Baudelaire sur de la country?
Moi, je propose qu'on lance le défi aux auditeurs. si quelqu'un est capable de faire une country qui vaut la peine... je crois qu'on est preneur. Bon, j'aime beaucoup la culture, hein, mais à voir. Non, ce serait, je sais pas. Sur ce que m'inspire Baudelaire, c'est plus forcément à l'adolescence et à la fin de l'adolescence, le spleen, c'est quelque chose qui m'a parlé. Aujourd'hui, c'est pas forcément ça que j'avais envie de sortir, et même au contraire, c'est pas la majorité des poèmes qu'on a choisi ne traitent pas du tout de ça, même s'ils viennent du spleen de Paris. C'est plus une Enfin, pour moi, dans le côté, ce qui est très contemporain dans Baudelaire, c'est pas forcément son spleen. C'est presque plus une violence contenue et un côté désabusé par rapport à un monde absurde. Et donc, effectivement, des poèmes comme Assommons les pauvres, il y a une violence énorme. Et l'intérêt était d'aller le chercher avec le sourire, en fait, se dire comment on peut citer un poème c'est presque un appel à tabasser le mendiant qui passe devant toi, mais pour la beauté de l'art, pour ce qu'est vraiment l'acte poétique, justement, ça reste une œuvre de fiction aussi, c'est ça qui est intéressant.
Très intéressant, effectivement. Donc, vos prochaines dates, là tout de suite, on va parler plus du projet, mais vous avez des dates à venir, vous allez jouer quand et où?
Alors, en novembre, on a quatre dates qui arrivent. On va jouer le 2 novembre à la Bibliothèque des Avanchets pour un apéro-concert. Ensuite, on va jouer le 4 novembre à l'Undertown pour une soirée d'une association dont le nom m'échappe, j'ai honte. Désolé, Robin. Ensuite, on jouera le 11 novembre, samedi 11 novembre, au SL, à Orbe. Et enfin, on termine le mois avec La Fureur de Lire à l'Abri. Et là, ça sera un dimanche après-midi à 16h à l'Abri.
Génial. Donc, ouais, plein de choses de prévues. En tout cas, on se réjouit un peu, nous, d'avoir un petit peu plus de retour encore sur cette expérience. Je suppose que toi aussi. Le projet, il se construit encore au fur et à mesure qu'il se joue?
Oui, alors complètement. D'autant plus que ce soit dans une résidence ou que ce soit dans les créations qu'on a fait en vidéo, où on abordait souvent chaque œuvre une après l'autre, mais vraiment de manière approfondie. Et la notion même du live, de set complet, c'est aussi une construction. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose qu'on estime les deux comme étant bien, voire très bien, et maintenant il y a encore une grosse marche à franchir pour avoir quelque chose d'excellent. Et que ça soit, enfin les deux, on a, et c'est finalement tant mieux en fait d'avoir la chance de pouvoir toujours travailler, d'aller plus loin et d'avoir aussi peut-être l'humilité de se dire on a encore beaucoup de choses à chercher là-dedans, et c'est tant mieux, ça veut dire que la matière est énorme et qu'on n'a pas, on a pas fini de bosser, mais que du coup on n'a pas fini d'explorer non plus, et c'est une belle exploration.
D'où l'idée de créer un projet aussi qui va pouvoir se décliner à l'infini, qui vise simplement à recréer un univers autour de, et puis à réutiliser et à remettre sur le devant de la scène certains classiques et de s'y approprier.
Complètement. C'était une volonté déjà de remise en avant de la littérature. C'est mon côté éteint à télé, quoi. Et bouquine un petit peu, mais ça c'est voilà. Loin de moi l'idée de l'envie de juger, juste une envie de râler en bon genevois.
Allume ta radio.
Voilà, allume ta radio et sors un bouquin, sors, discute avec des gens, enfin fais autre chose qu'être là tout seul, à faire semblant d'avoir une vie sociale. Passons. Mais du coup, effectivement, l'envie de revivre, enfin de représenter un peu les classiques. En fait, c'est vraiment parti de. Enfin, j'ai fait un bachelor en français moderne, entre autres, et j'avais un peu cette impression que justement qu'en fait on passe son temps à citer des classiques qu'on ne connaît pas. Et finalement, pour moi, c'est aussi une manière de questionner pourquoi les classiques, pourquoi on est capable aujourd'hui de citer que des auteurs morts, et pourquoi Joël Dicker c'est vraiment moins bien que Molière. Bon, ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui va faire que c'est pas juste parce qu'il est vivant, parce qu'il est contemporain ? Qu'est-ce qui Enfin voilà, c'est très bien sans doute ce qu'il fait, mais c'est pas du tout ma question. C'est vraiment plus qu'est-ce qui va faire que, enfin aujourd'hui, il y a encore intérêt à écrire de la poésie ? Si oui, comment ? Ensuite. Si on écrit de la poésie, alors j'ai envie de pouvoir dire « Ouais, je préfère Baudelaire. » Et pas qu'on me dise « Ouais, mais c'est incomparable. » Je fais « Si, en fait, si tu composes quelque chose, fais-le tout de suite comme étant une œuvre et pas comme « Ah, j'ai fait ça en dilettante. » Enfin, vraiment, de se permettre, en fait, de dire aujourd'hui. En fait, revisiter les classiques, c'est aussi une manière de préparer une transmission pour qu'il y ait, aujourd'hui, des nouveaux classiques pour la suite.
Effectivement, intéressant. Je pense que ça doit être difficile de réussir. Tu parlais de flow tout à l'heure. Je pense que c'est plus facile de trouver un flow sur quelque chose qu'on a écrit soi-même. Et que du coup, réutiliser des textes qui sont déjà existants, notamment du Baudelaire, notamment des textes classiques, donc ont déjà été écoutés, réécoutés, parfois mal compris, effectivement. Il y a souvent aussi ce problème-là des classiques qu'en fait on ne connaît pas. Mais il y a aussi ces classiques qu'on connaît beaucoup. Baudelaire, je pense, en fait partie. Alors peut-être pas forcément. Je pense que le fait que vous ayez choisi dans ces petits poèmes en prose fait que vous allez moins tomber sur des gens qui récitent le texte en même temps que vous. Mais est-ce que c'est pas un petit peu difficile de se réapproprier des choses qui existent déjà depuis tant d'années et qui ont été un matériel de base pour les gens qui ont écrit, mais aussi pour des gens qui ont déjà recréé par-dessus?
Alors oui, c'est un exercice qui est en fait un exercice théâtral aussi assez beau. Si encore aujourd'hui, alors la question, même chose, je reviens sur Molière, mais est-ce que la question se pose, est-ce que ça a un sens aujourd'hui de remonter un Molière? Si les gens le font, c'est... Peut-être qu'il y a encore un sens, peut-être que ce texte dit toujours des choses qui sont intéressantes à entendre. Après, pour moi, l'exercice d'aller me replonger dans un texte, c'est, je trouve, une expérience qui est très belle, en fait, parce que comment faire en sorte que les mots d'un autre deviennent mes mots, sans les changer, sans les modifier, comment les dire de manière à ce que ça soit aussi mes mots et pas juste ceux de Baudelaire. Donc c'est l'exercice est là, en fait.
Effectivement, puis comment est-ce qu'on fait pour que les gens les comprennent mieux? Effectivement, tu disais la déclamation, c'est aussi permettre aux gens de effectivement écouter les mots et effectivement recomprendre ce que l'auteur a pu vouloir dire là-bas. Je pense que la musique aide beaucoup aussi pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière les mots.
La musique crée une attention et je pense que la musique est une porte émotionnelle très très intense. Et le fait de, effectivement, c'est la chance de pouvoir mêler un texte poétique à une musique qui, donc, d'aller ouvrir la porte émotionnelle immédiatement, permet aussi permet d'entrer sans forcer dans l'oreille et dans le cœur des gens à ce niveau-là.
Et de les mettre aussi, ouais, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui me ressort beaucoup quand tu parles de ton projet, c'est cet aspect-là, multidimensionnel, quoi. C'est vraiment le mot que j'utiliserais de vouloir créer toute une expérience plus que quelque chose qu'on écoute, toute une expérience qui nous fait ressentir et puis qui nous donne, de l'inspiration quelque part.
C'est aussi pour ça qu'on a choisi vraiment d'appeler ça, de partir en l'idée qu'on était vraiment une performance, dans le sens où c'est pas, on est ni dans la pièce de théâtre, ni dans le concert, ni dans le concept. C'est vraiment, le but, c'est effectivement J'aime pas trop le terme happening, parce que c'est justement ce truc qui n'arrive qu'une fois où souvent on comprend rien. Je suis peut-être très mauvaise langue. Hein.
Non, moi je crois que c'est aussi un moyen de faire de la publicité et puis de pas trop se casser à créer un truc qui sera reproduit plusieurs fois.
Mais c'est vrai que pour moi c'est la folie de l'art vivant, c'est de réussir à faire en sorte, à répéter une même œuvre en la rendant unique à chaque fois, alors que c'est la même.
Effectivement, bon, je pense qu'elle est unique aussi du fait que les personnes qui sont présentes pour les voir sont, le ressentent de manière différente, puis après chacun qui la verra autant de fois qu'il veut la ressentira peut-être aussi de manière différente à chaque fois.
Ouais, complètement.
Je sais pas exactement. Je voulais parler un petit peu de la résidence avec toi. Tu as parlé beaucoup du fait que ce projet avait été monté en résidence, donc avec Michael Borcar. Est-ce que ça se passe une résidence? Vous étiez où? Ça dure combien de temps? Comment ça s'est passé?
Bon, alors là, c'est un peu en fonction des capacités et financières et temporelles de chacun. Nous, on a eu la chance de pouvoir squatter dans un appartement à Morgin. Donc on a fait ça pendant une semaine, en fait. On s'est enfermé une semaine. On sortait pour quelques heures par jour pour se balader et aller chercher à manger. Mais sinon, c'était le but était d'avoir un espace où on peut... En fait, on aurait tout à fait pu faire ça dans un espace clos. Ce qu'il nous fallait, c'était d'avoir le matériel qui restait installé. Et voilà, d'avoir la chance de faire ça dans un endroit aéré, ça nous a sauvé la vie sans doute. Parce que je fume beaucoup en travaillant. Là. Je crois que ce qui était important en fait dans le côté résidence, c'est la possibilité d'être ensemble H24 pendant un temps donné. Et donc de pousser la réflexion, de pousser la création, finalement, au bout d'un moment même, tu finis par rêver de ce que tu as fait la journée. Enfin, t'es vraiment dans une... Tu peux aller profondément dans une bulle de création. Et dans une exploration qui est vraiment... Tu peux aller plus loin que si tu fais à coup de répète par-ci par-là, en fait, où à chaque fois tu dois te remettre dedans. Là, dès le matin, c'est bon, un café, un croissant, et puis bon, on s'y met. J'ai pensé à ça, et puis voilà, on explore, on essaye. Et d'avoir un temps qui est consacré uniquement à la création, c'est quelque chose qui est très très précieux et qu'on s'accorde pas forcément. Donc là, c'était aussi le but de pouvoir se dire, voilà, on s'accorde ce temps de création, ce temps d'exploration. On n'avait pas du tout l'ambition de se dire, voilà, en une semaine, on va créer un spectacle. Au début, c'était vraiment, on va explorer. Et si on arrive à avoir un son qui nous convient à la fin, c'est génial. Puis voilà, résultat, on est sorti avec près d'une heure de performance en disant, bon, en fait, ça tient, quoi. C'est ce qu'on avait envie de faire. Et pour là, c'est ce qu'on avait envie de faire.
Génial. Je pense que c'est aussi, en plus, ce type de façon de s'organiser pour travailler, c'est primordial. Je pense que quand tu travailles avec quelqu'un d'autre que juste toi tout seul...
Complètement. Puis c'est aussi il y a la relation humaine. Enfin, dans la création, l'avantage, c'est que c'est pas 1+1=2, quoi. Le côté dialogue multiplie tellement te fait tellement sortir de la boucle dans laquelle t'as l'habitude d'être. Et tout d'un coup, une idée va en faire jaillir 20 et puis là, puis ça, puis bam, bam, bam. Et cette dynamique-là, elle est très précieuse. C'est vrai que je parle beaucoup de Mickaël, mais il y a aussi Julien, qui est Julien du studio Torsion. Qui est celui qui finalement a coproduit l'album qu'on va sortir. C'est lui qui nous a filmé pour les vidéos, qui fait l'ingé son. Enfin voilà, c'est l'homme de l'ombre, mais qui le fait très très bien. Il nous facilite la tâche pour absolument tout. Et donc lui est arrivé après la résidence. On a fait la résidence les deux, mais ensuite de quoi? En disant maintenant, pour la performance live, on a besoin de travailler quelqu'un de confiance. Et voilà, eux ont l'habitude de bosser ensemble parce qu'ils jouent ensemble dans Penfield. Moi, j'avais pu enregistrer le deuxième album de Capitaine, etc. au studio Torsion. Enfin, voilà, c'est aussi... Enfin, même chose, la création, c'est une histoire de rencontre aussi. Et c'est, à mon sens, la rencontre humaine, elle est primordiale. Parce que c'est là-dessus que va se créer toute une confiance qui permet d'aller faire cette prise de risque de création, de mise en danger ensemble, en fait.
La création, ça te connaît? C'est Projet 17, c'est pas le seul projet sur lequel tu as travaillé. Tu as un alter ego de scène qui s'appelle Capitaine, etc., je crois également.
Exact.
Tu peux nous en parler un petit peu plus de Capitaine, etc.
Alors, Capitaine, etc., cette fois, c'est vraiment plus un projet chanson qui commence à avoir 7 ans, je crois. Qui, à la base, s'est écrit avec mon petit frère Nicolas au piano, puis qui est devenu un groupe avec Loïc, Jérémy, Delphine, enfin voilà, on avait un petit quintet, gros quintet, parce que quand la batterie, le violoncelle, le piano, ça commence à prendre de la place, la
gros
trompette.
Gros instrument, effectivement.
Et qui était plus basé sur le chant de marin, le, la chanson à texte, aussi raconter des histoires en fait, mais cette fois mes textes et les textes d'un ami aussi. Et puis voilà, alors ça c'est une histoire, enfin, c'est une autre histoire qui a donné deux albums, qui donne maintenant un troisième album qui est en cours de préparation, en cours d'écriture du moins.
Plus solo là pour le coup, j'ai cru comprendre.
Alors solo puis duo en fait. Enfin, effectivement, l'album va sans doute s'appeler Presque en solitaire. Et voilà, on verra ce que ça donne, c'est une autre histoire.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, merci pour tous ces projets. Moi, je me réjouis de voir tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, tant sur Projet 17 que sur Capitaine, etc.
Bah alors, Capitaine, etc., si vous ne faites rien ce soir, je joue au CAF de Bon Séjour à Versoix ce soir.
Voilà, juste après la soirée de la Soca, on se rejoint là-bas.
Parfait. Et l'entrée est libre et la bière est bonne. Et sinon, ouais, bah, je vous invite à aller sur les sites internet, sur Facebook, Projet 17, donc Croivez Bâton Bâton, comme disaient les amis de Kaamelott. Voilà, Projet 17 en chiffres romains, et Capitaine, etc., normal, quoi.
Normal, on tape sur un moteur de recherche très connu, très efficace, mais pas très juste. Mais
et voilà, effectivement, bah, sur YouTube et sur le site internet, donc Projet 17, en un mot, projet Croivez Bâton Bâton, hein, xvii.com, là, vous retrouvez les vidéos, une newsletter. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher pour faire une opinion. Mais je ne sais pas si peut-être on peut en écouter un morceau.
Mais justement, ouais, on va écouter Chacun sa chimère.
Mais en tout cas, merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci, et puis merci, je te souhaite une bonne journée, une bonne suite.
Mais pareil, puis garde la banane.
Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrais plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte, au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture. Et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme, comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi. Et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leur écrasante chimère.